Alors, je vous invite à tourner avec nous dans la lettre aux Éphésiens. On termine une série dans une lettre, à mon avis, extraordinaire. J'ai été encore une fois vraiment béni de pouvoir étudier cette lettre-là. Je le dis souvent, c'est moi qui suis le plus privilégié d'entre tous de pouvoir passer du temps comme ça dans la parole de Dieu. Mais en même temps, je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce qu'il y aurait eu tellement plus à dire dans cette lettre-là. Puis je reste sur ma faim parce que je sais que la semaine prochaine, on va être dans les psaumes. Puis je sais comment est-ce qu'on est. Hein? On oublie. On tourne la page. Alors moi, je veux vous encourager ce matin à considérer, et vous allez voir le message de ce matin, il va aller dans ce sens-là, de ne pas quitter trop vite la lettre aux Éphésiens. Cette semaine, de prendre le temps, de peut-être pendant la semaine, ces 6 chapitres, de lire un chapitre par matin, puis aller revoir qu'est-ce que Dieu vous a montré à travers cette série-là, qu'est-ce que Dieu vous a donné, qu'est-ce que vous voulez retenir de cette série-là. Peut-être prendre le temps d'aller réécouter la série sur le site Internet, puis juste relire tranquillement. La lettre aux Éphésiens, c'est vraiment, je dis souvent que tous les passages sont quasiment les plus beaux de la Bible, mais la lettre aux Éphésiens avec la lettre aux Romains, c'est probablement les deux lettres les plus importantes de tout le Nouveau Testament pour comprendre vraiment l'Évangile et la dynamique de l'Évangile dans la vie du chrétien puis dans la vie de l'Église. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Paul nous envoie dans la mêlée. Paul termine sa lettre, il nous a équipés, on est blindés avec l'Évangile dans notre identité, dans ce que c'est l'Église, dans notre mandat ici sur la terre. On va revoir certains de ces éléments-là. Puis il nous envoie dans la mêlée parce qu'il demeure que même si Christ a eu la victoire à la croix, il est ressuscité d'entre les morts, il nous a acquis cette victoire-là, il reste qu'on est dans l'attente de son retour. Et pendant qu'on est ici sur cette terre, il y a une dimension de la vie chrétienne qui demeure un combat. La vie ici-bas, ça demeure souvent un combat pour garder la bonne perspective, un combat pour trouver le courage à tous les jours, un combat pour savoir comment agir ou réagir. Un combat pour avoir la bonne attitude, un combat de la foi. Et ce matin, à travers une image, des fois qui peut avoir de l'air même un peu enfantine, Paul va nous donner un moyen de se rappeler de l'Évangile à tous les jours pour livrer ce combat-là. On va écouter ensemble la parole de Dieu. Danny va nous lire un court passage dans Éphésiens 6.
Un, deux. Ah, il était ouvert pourtant. Alors, Éphésiens, je répète, chapitre 6, le verset 10 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Pardon. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler.
Merci, Danny. Une grosse question pour vous ce matin. En fait, c'est une comparaison. Et peut-être que je vais sonner un peu... spirituello-gugus, ce matin un peu mystico-gugus pour certains d'entre vous, OK? Lequel des deux est le plus difficile? Croire en Dieu qui est invisible, que je ne vois pas. Quand je vais dans la prière, je ferme les yeux, puis croire en Dieu qui est invisible. Ou est-ce que c'est plus difficile de croire que lorsque la personne qui est devant moi me fait du mal, me heurte, me respecte pas, qu'en réalité, c'est pas la personne qui est devant moi que je vois avec mes yeux qui est mon adversaire, mais que la bataille qui est là, c'est une bataille spirituelle. Donc, lequel des deux est plus difficile à croire? Croire en Dieu que je ne vois pas avec mes yeux ou croire que celui que je vois devant moi n'est pas vraiment mon adversaire, mais qu'on est engagé dans une guerre spirituelle et que je ne devrais jamais considérer les hommes qui sont devant moi véritablement comme mes adversaires, mais réaliser qu'il y a une autre bataille qui est en train de se passer. C'est drôle, hein? Quand moi j'y pensais cette semaine, je me disais, je pense que c'est le deuxième qui est plus dur à croire. Je pense que c'est celui-là qui est le plus difficile à me rappeler. Dieu est là, c'est acquis pour moi, même si je ne le vois jamais. Mais la personne qui est devant moi, trop souvent, si elle me fait du mal, ou si j'ai l'impression qu'elle me fait du mal, j'ai tendance à croire que c'est elle mon adversaire, cette personne-là. Au lieu de réaliser qu'en définitive, comme chrétien, on est engagé dans un combat spirituel. Ce matin, on va voir ensemble que marcher selon Dieu et refléter Christ demeure un combat de tous les jours. Et c'est en Jésus-Christ et dans son évangile que nous trouvons la force pour tenir ferme. Regardez ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6:12. Dans Éphésiens 6:12, il nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul n'est pas un gars comme super mystique, c'est un gars très concret. Puis Paul savait c'était quoi faire face à des adversaires humains. Paul avait lutté physiquement contre des gens qui l'ont battu, qui l'ont arrêté. Au moment d'écrire cette lettre-là, il est en prison. Je veux dire, c'est concret, c'est pas très mystique puis spirituel, la patente. Il y a des gars qui l'ont pris, qui lui ont mis des chaînes, qui l'ont conduit dans une geôle et qui l'ont probablement battu. Paul a été lapidé, il a été battu, laissé pour mort à plusieurs reprises. Lorsqu'il arrivait dans une ville, généralement, des hommes l'attendaient, le précédaient pour pouvoir nuire à tous ses efforts d'annoncer l'Évangile. Et lorsqu'il arrivait même dans des églises, parfois, pouvez-vous croire ça? L'apôtre Paul pouvait arriver dans certaines églises, puis dans l'église, on l'attendait avec une brique puis un fanal. Et pourtant, Paul nous dit ici, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul est en train de nous dire que l'adversaire n'est pas la personne devant toi. En définitive, l'adversaire n'est jamais la personne devant toi, parce que le combat n'est pas avec les hommes. Nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang. Répondez pas à voix haute, mais juste pour vous. Essayez de penser cette semaine à quelqu'un, comme on dit au Québec, qui vous a tombé ses nerfs. Quelqu'un qui vous a manqué de respect. Vous l'auriez peut-être, vous y auriez peut-être dévissé la tête, comme on dit au Québec. Peut-être pas. Au moment où ça s'est passé, remettez-vous dans les circonstances, là, au moment où ça s'est passé, là, est-ce que vous avez eu la présence d'esprit à ce moment-là de vous dire, c'est pas lui mon ennemi? C'est pas lui mon ennemi? C'est le diable qui est en train de jouer dans nos têtes, le péché qui s'installe. Je suis engagé dans un combat spirituel. C'est pas évident, hein? Sérieux, c'est pas évident. Parce qu'on est convaincu à ce moment-là, lorsqu'on prend l'offense, que c'est cette personne-là qui est devant nous et qui est notre adversaire. Maintenant, je voudrais juste vous rappeler quelque chose qu'on a vu la semaine dernière. Ça se tient son affaire d'un bout à l'autre. La semaine dernière, on a vu ensemble qu'un chrétien, lorsqu'il entre en relation avec les gens, premièrement, il n'est pas là pour se servir des gens. Hein, Christ est un serviteur, il est venu comme serviteur. Donc, un chrétien, c'est avant tout un serviteur. On se sert pas des relations, on sert dans les relations. C'est ça l'attitude qu'un chrétien cherche à avoir. On n'est pas parfait, mais c'est l'attitude qu'on cherche à avoir. Mais on a ajouté quelque chose à ça la semaine dernière. C'est Paul qui nous a dit vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Puis on a donc vu ensemble que on fait tout comme pour le Seigneur. Paul disait dans Éphésiens 6:5, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de vos cœurs, comme à Christ. Il dit, quand tu es en train de servir ton employeur, admettons, pas beaucoup d'esclaves ici, même si vous pensez que vous êtes des esclaves, on dit, vous n'êtes pas des esclaves, pas beaucoup d'esclaves au Québec, mais ton employeur, tu es en train de servir, Paul est en train de dire, fais-le comme si tu le faisais pour Christ. Et donc, ce qu'on avait vu ensemble la semaine dernière, c'est que chaque fois que j'entre en relation avec des gens autour de moi, comme chrétien, la puissance que j'ai dans l'Évangile, c'est de savoir que je suis en train de servir Christ avant tout. Et donc, ça me donne énormément de liberté. Je n'ai pas à craindre les hommes. C'est Christ que je veux respecter. Ça me donne une grande liberté, même si les gens apprécient pas, admirent pas mon travail, sont pas reconnaissants, sont ingrats. En définitive, je sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ingrat, puis qui voit ce que je fais, puis c'est mon Seigneur. Amen? C'est mon Seigneur, non? Mais Paul est en train de dire la même chose ici. Lorsque une situation difficile survient dans les relations, puis la personne qui est devant moi, il y a un conflit qui s'engage. Paul est en train de me dire, c'est pas avec cette personne-là que tu es en train de te battre pour de vrai. Tu es en train de livrer un autre combat. Un autre combat qui est un combat spirituel. Où la pensée du monde, la pensée du diable vient jouer dans ta tête, dans sa tête, puis il y a des comportements, il y a des paroles, il y a des pensées qui sortent de là. Puis c'est pas celle-là la vraie bataille. La vraie bataille, c'est une guerre spirituelle. C'est un combat spirituel que tu es en train de livrer. Si on avait voulu reprendre le passage de la semaine dernière, on aurait pu le paraphraser en disant, « Car nous n'avons pas à craindre de servir les hommes en chair et en os, parce qu'en servant les hommes, nous servons Christ. » J'apprends à garder à l'esprit la dimension spirituelle de mon service. John Stott le dit comme ceci. Il dit, « Sous la surface, une bataille invisible et spirituelle fait rage. » Et Paul a parlé de ça à travers toute sa lettre. Il a parlé de la game que le diable cherche à jouer dans notre esprit, dans notre tête, le jeu qu'il veut jouer dans notre tête. Dans Éphésiens 6, 11, on lit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Peut-être que vous ne savez pas, mais le mot « diabolos » en grec qui est là, ça veut dire le faux accusateur. D'accord? Diable, ça vient juste d'un mot grec, diabolos. Et ça veut dire celui qui trompe, celui qui est le faux accusateur. En grec, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça, ce sont les jeux du diable. Puis Paul nous avait aidé à les voir, par exemple, dans Éphésiens 4, lorsqu'il dit dans Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Pourquoi? Parce que la colère peut survenir d'une injustice. Moi, quand je lis des choses comme ce qui s'est passé à Londres, je vous avoue que j'ai de la colère qui vient dans mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis, il y a des situations où on subit des injustices, où on a l'impression de subir des injustices. Puis, il y a de la colère qui vient dans notre cœur. Puis Paul dit, attends. C'est correct, là, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas correct. Granted, qu'est-ce que tu fais avec ça? Où tu t'en vas avec ça? Parce que le diable a un terrain qui lui est ouvert maintenant pour venir jouer dans ta tête. Paul va dire un peu plus loin au verset 25, Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et donc, le diable est là pour jouer avec nos relations et nous convaincre que nos ennemis, ce sont les gens qui sont là devant nous. Mais Paul nous a déjà appris que par nature, on est tous les mêmes, on est des pécheurs. Par nature, on est tous prompts au mensonge. Par nature, on est tous prompts à pécher. Et c'est juste par la grâce de Dieu si on est de sa famille. C'est uniquement par grâce. Et donc, je réalise que c'est vraiment par une grâce de Dieu que j'ai été sauvé. Quand je suis en relation avec quelqu'un, puis j'ai quelqu'un qui cherche à me faire du mal, peut-être, en réalité, c'est une guerre spirituelle qui est livrée ici. Alors, quelques questions pour vous aider à réfléchir cette semaine, puis chercher à mettre ça en pratique. Qui est cette personne que tu vois souvent comme ton adversaire? Est-ce que tu es prêt à voir ta relation avec cette personne comme un combat spirituel où le diable ne voudrait surtout pas que tu prennes les ressources de Dieu, les armes de Dieu pour agir dans cette situation-là? Est-ce que tu es prêt à voir ces choses-là, cette relation-là, de cette manière-là? Pense-y ce matin, pense à ces gens avec qui c'est plus difficile de dealer. Mais ce n'est pas juste dans notre relation avec les gens. Quand Paul dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est aussi contre ma chair et mon sang, mes combats, mes défis à moi, aussi face à tes défis personnels. Tu regardes certaines choses dans ta vie comme des montagnes insurmontables. Mais est-ce que tu vois la dimension spirituelle de cette bataille-là? Est-ce que tu peux considérer que ton défi, c'est de regarder cette situation-là à travers la vérité de la parole de Dieu? Ça a l'air complètement insurmontable. Il y a des choses qui ne sont pas en ordre dans ta vie. Puis, au lieu de les attaquer avec foi, aller vers la parole, prendre les principes, les préceptes de la parole, dire, OK, voici, ça ne marche pas mon affaire, mais les Écritures sont claires, je sais comment est-ce que je devrais me comporter ici. Puis, au lieu de tomber dans ce jeu-là, je l'ai dit, Diabolos, c'est le faux accusateur. Il veut t'abattre. Il veut que tu restes à cet endroit-là. Mais c'est une guerre spirituelle. Prends la chose une à la fois avec les principes de la parole et avec foi. Est-ce que tu es prêt à envisager des choses comme ça? Tu cherches un emploi, il n'y a rien qui marche. Tu commences à dire que c'est ton destin de ne pas avoir un emploi. Il n'y a jamais personne qui a cru ça. Chercher une job, ça ne marche pas, puis ça ne marche pas, puis ça ne marche pas. Puis à un moment donné, tu te dis, je pense que Dieu ne veut pas m'en donner de job. Et ça va être quoi à ce moment-là de réaliser que oui, il y a quelque chose de très réel, concret, c'est un job, c'est humain, c'est vrai pour tout le monde. Mais moi, comme chrétien, je suis engagé dans un combat spirituel contre l'abattement, le découragement, le mensonge de croire que Dieu n'est pas mon bon Père céleste qui veut prendre soin de moi, puis que cette épreuve-là, il va la faire tourner à mon avantage. Est-ce que tu es prêt à envisager même ces défis-là très réels avec cette perspective spirituelle-là? Maintenant, dans cette lettre-là, c'est la lettre de la grâce. L'accent dans toute la lettre, c'est que Dieu est venu vers nous, il nous a fait grâce, on a été sauvés par grâce. Puis on arrive à la fin, puis Paul nous dit, « Ouais, mais la vie, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est pas simple. Ça va être difficile quand même. » Puis la tentation pour nous, comme chrétiens, c'est de dire, « OK, Seigneur, tu m'as fait grâce, tu m'as sauvé. Maintenant, man up! » Je vais prendre les choses en main. Merci, maintenant je vais m'en occuper. Puis on a tendance à croire ça. Puis là, tu t'engages là-dedans, puis tu te décourages parce que tu essaies de trouver un appui en toi-même. Seulement. Et au contraire, ce que Paul va faire ici, en nous disant qu'on est engagé dans un combat, à travers une illustration, je l'ai dit tantôt, un peu peut-être même, pour certains d'entre vous, c'est peut-être enfantin. D'accord? Mais à travers ça, à travers cette image de l'armure d'un combattant, Paul veut nous rappeler que c'est dans notre identité que nous avons dans l'Évangile qu'on va trouver notre appui. C'est en Dieu qu'on va trouver notre appui. Donc, tout ce que Paul nous dit, c'est, écoutez, la vie chrétienne, c'est pas simple. C'est pas vrai que parce que tu es devenu un chrétien, tu es rendu au paradis, puis il n'y a plus de péché, puis tu es libéré de la présence du péché, puis tout va bien aller. Hallelujah! Non, c'est pas ça! C'est vrai qu'il y a encore des combats à livrer. Mais tu n'as pas à les livrer par ta propre force. Tu dois te confier dans la force qui est en Dieu. Regardez le verset 10, Éphésiens 6, 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Puis l'image qui est donnée ici, là on va parler un peu militaire, d'accord? Parce que c'est ça l'image que Paul prend. Mais l'image qui est donnée, c'est de tenir ferme, de tenir notre position. Dans ce passage-là, il n'est pas question de se lancer dans la mêlée puis aller faire une percée puis aller à l'offensive. Dans le fond, l'image qui nous est donnée dans Éphésiens, c'est que l'offensive a été livrée par Christ. Et la victoire a été acquise par Christ. Et notre rôle à nous, c'est de garder notre position, de ne pas perdre le terrain que Christ nous a acquis. Et donc, le langage va être constamment comme ça. Au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Tenir ferme. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, tenez donc ferme. Et l'image qui me venait à l'esprit lorsque j'étais en train d'étudier le passage, je ne sais pas si vous connaissez la bataille de Thermopyle. Ceux qui ont vu un film, c'est un film super bucolique et gentil, ça s'appelle 300. D'accord? Si vous avez déjà vu ce film-là, très très joyeux. La bataille de Thermopyle, c'est un fait vécu, D'accord? C'est pas quelque chose de mythique, même si ça a l'air un peu de ça dans le film, là. Mais donc, c'est une bataille qu'il y a eu entre les Grecs et les Perses. Et le royaume perse était en pleine expansion. Et puis, à un certain moment donné, le roi Léonidas, après que les Grecs du Nord soient tombés contre les Perses, une armée énorme, on n'arrive pas à l'estimer précisément, entre 70 000 et 300 000 militaires, d'accord? Donc, la Grèce du Nord est tombée. Et maintenant, le roi Xerxès s'en vient prendre la Grèce du Sud. Et il va y avoir un col à traverser pour pouvoir aller faire cette conquête-là. Et l'histoire nous raconte que le roi Léonidas, avec 300 Spartiates, va tenir pendant 3 jours le col, contre entre 70 000 et 300 000 soldats de l'armée du roi de Xerxès, d'accord? Donnant ainsi le temps à l'armée grecque du Sud de s'organiser, et ça va avoir tout un impact parce qu'ils vont réussir à prendre Athènes après, mais la Grèce va garder son indépendance. Et donc, avec ce sacrifice-là, effectivement, ils ont réussi à donner le temps à l'armée de s'organiser. Mais donc, ces 300 hommes-là ont tenu pendant 3 jours. Et ils auraient tenu encore plus longtemps s'il n'y avait pas eu un traître qui avait annoncé, qui avait dit à Xerxès où est-ce qu'il y avait une passe par où l'armée pouvait venir. Première journée, Xerxès est crampé en deux. Il y a 300 hommes devant lui dans un col. Il envoie ses fantassins. En fait, il envoie juste ses mercenaires. La première vague de combattants est complètement renversée. Les Spartiates tiennent bon. Deuxième vague dans la même journée, sa troupe d'élite, 10 000 hommes, qu'on appelait les immortels. On les appelait les immortels parce que chaque fois qu'un homme tombait, on le remplaçait par un autre. Et donc, tu avais l'impression que l'armée ne réduisait jamais. Et les 300 Spartiates vont tenir, encore une fois, contre ces 10 000 hommes-là. Le lendemain, Xerxès va dire, OK, il va se dire, OK, ils sont épuisés. 300 hommes qui soutiennent une bataille soutenue, ils vont être épuisés. Il envoie le gros de ses forces, résiste encore. Et c'est simplement parce qu'il y a un traître qui est allé donner l'information à Xerxès qu'il y avait une passe à travers les montagnes où on pouvait les prendre par derrière, que Léonidas et ses 300 hommes vont tomber le troisième jour. Mais grâce à ce sacrifice-là, l'armée grecque a réussi à s'organiser et ils vont garder leur indépendance. Et l'image qui me venait à l'esprit, c'est que c'est notre rôle. On est dans ce col-là. On doit tenir nos positions. On doit garder nos positions. Puis il y a des moments où c'est périlleux, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où la vie est vraiment un combat ardu. Mais notre rôle à nous, c'est de garder la position et de ne pas laisser passer l'adversaire. Et c'est Christ qui a acquis la victoire à notre place. Je reste dans les images de guerre ce matin, mais lorsqu'il y a eu le débarquement pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans plusieurs guerres, souvent, on va pouvoir identifier un moment tournant. Le débarquement en France a été extrêmement difficile. Ça a pris quelques essais pour y arriver, beaucoup de planification. Et des milliers d'hommes sont morts au débarquement. Mais lorsque le débarquement en France a été réussi, la guerre était gagnée. Tous les historiens s'accordent pour dire: une fois que le débarquement a été réussi, la guerre était gagnée. C'était une question de mois avant qu'on s'y rende. Alors, voyez-vous, pour nous, la guerre est déjà gagnée. Christ est déjà débarqué, il est venu sur la terre, il a livré la bataille, il a vaincu l'adversaire, ressuscité d'entre les morts. La victoire est déjà assurée. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de combat à faire. Et donc, on doit, nous autres, tenir jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et on va le faire en s'appuyant sur sa victoire à lui. Nous devons nous remémorer qui nous sommes. C'est ça que Paul nous dit dans Éphésiens. Et ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, cette force du Seigneur, implique que nous pouvons résister au diable en puisant notre force en Dieu à tous les jours. Voyez-vous, on a été sauvés par grâce. Et ce que j'ai besoin, c'est de me rappeler cette grâce qui m'est acquise, cette victoire qui m'a été acquise. Et je m'appuie sur l'œuvre de Christ à tous les jours, pas sur mes propres forces. Je tiens ferme en m'appuyant pas sur Yannick. Je regarde pas à hier en disant « Ah, hier j'ai été un bon chrétien, aujourd'hui je vais être un meilleur chrétien. » Je le répète souvent, il n'y a pas de bons chrétiens ici. Il y a juste des gens graciés. Et donc, je retourne à la grâce, puis je dis, OK, jusqu'où je veux retourner, c'est en arrière à la croix. Christ a vaincu. Je m'appuie sur lui, sur l'œuvre qu'il a accomplie. Et c'est ça que Paul fait à travers ces équipements-là qu'il nous présente. Ainsi, chaque jour, On est appelé à se reposer dans l'œuvre de Jésus-Christ pour trouver notre force. Puis je le dis souvent, je vous encourage à le faire, je vais vous le répéter jusqu'à ce que vous soyez tous en train de le faire peut-être. J'aime commencer ma journée avec l'Évangile. Je l'ai fait encore ce matin, je me suis réveillé, je me suis pas levé tout de suite, je suis resté dans mon lit 5 minutes environ, 7 minutes. Pas trop longtemps, faut pas que le cadran sonne trop de fois parce que je reçois des coups de coude ou... Non, c'est pas vrai. Esther est pas comme ça. Esther est pas comme ça, OK? Mais qu'est-ce que je fais? Je repasse l'Évangile dans mon cœur. J'ai besoin de repasser l'Évangile parce que j'ai besoin d'aller dans l'œuvre accomplie de Christ et savoir qu'aujourd'hui, les batailles, les combats que je vais avoir à livrer par la foi, je vais les faire par la force que je trouve en Dieu, dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, Paul, puis je vais terminer avec ça. Paul nous donne une illustration, d'accord, qui tire de la guerre, parce que c'était une époque où ils étaient sous domination romaine, ils voyaient des militaires passer dans les rues constamment, l'image était très forte, elle était présente, et il nous donne une illustration pour nous rappeler, dans le fond, là, Paul nous donne un truc mnémotechnique, vous avez déjà entendu ça? Pour mémoriser les ressources que nous avons dans l'Évangile. Et si vous êtes attentif à ces 7 ressources-là qu'il nous donne, ce sont vraiment des armes défensives essentiellement, où on va se reposer dans ce que Christ a accompli pour nous. Donc, je vais les voir super rapidement avec vous, d'accord? Puis, je vais faire quelque chose cette semaine. Ceux qui sont sur Facebook, vous voyez qu'on est un petit peu plus présents, puis on est en train tranquillement de travailler sur le blog. C'est des choses qui seraient plus intéressantes à mettre sur le blog. Mais cette semaine, pendant les 7 jours, je vais mettre à tous les jours juste un petit vidéo de 2 minutes pour revoir chacun de ces 7 éléments-là, d'accord? Pourquoi je le fais pendant la semaine? C'est parce que je veux nous encourager à vraiment mémoriser ça. Pour que tranquillement, l'Église de l'espoir soit une Église qui commence chaque matin sa journée en repassant l'Évangile dans son cœur. D'accord? Donc, 7 éléments, très rapidement, 7 éléments, la ceinture de vérité, je vais juste les expliquer très, très vite, mais je les nomme une fois, la ceinture de vérité. On va être comme à la petite école, à l'école du dimanche, OK, avec tout le truc. Vous vous rappelez ceux qui ont fait ça? La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, c'est quoi après? Les chaussures que donne l'Évangile de paix, le zèle que donne l'Évangile de paix. Ensuite de ça, c'est quoi? Le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, puis la prière où on va vraiment se confier en Dieu, d'accord? Je fais juste les commenter très, très rapidement pour vous ce matin, puis vous pourrez aller suivre ça cette semaine si vous voulez aller un petit peu plus loin, d'accord? Mais Paul nous rappelle ce qu'on a acquis à travers l'Évangile pour qu'on puisse s'équiper à tous les jours, pour faire face à nos journées, tout simplement avec la puissance qu'il y a dans l'œuvre de Dieu pour nous. La vérité pour ceinture. Paul dit dans Éphésiens 6:14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Et la vérité dont il est question ici, c'est la vérité qu'on a trouvée en Jésus-Christ. On a vu ça un petit peu plus tôt dans Éphésiens 4:21. « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller du vieil homme. » Je m'arrête ici, d'accord? Mais donc, de quelle vérité il est question? C'est pas juste la vérité, c'est la vérité qu'on trouve en Jésus-Christ. Et j'ai besoin de cette vérité-là tous les jours, de me rappeler, j'étais pécheur, je vis dans un monde qui est déchu, mais Christ est venu, j'ai reçu la grâce, je suis devenu un enfant de Dieu. Voyez-vous, je suis en train d'aller dans cette vérité-là. Il va dire ailleurs, renoncez au mensonge, mais parlez avec vérité. Parce que j'ai plus à porter les œuvres des ténèbres où je suis là pour me protéger. Non, je peux marcher dans la vérité. Je peux voir les choses avec discernement, avec vérité. J'ai pas besoin de me raconter des histoires, défendre mon image, essayer de me justifier. On peut dire les choses avec vérité. C'est cette vérité-là dont j'ai besoin. Ensuite de ça, la cuirasse de la justice. Et certains vont dire ici qu'il est question de la justice de Christ qui nous est donnée. D'accord? Comme la justification. Je pense que c'est une erreur. On n'est pas dans Romains. Dans Romains, Paul va parler de sa justification. La justice dont il est question ici, ce sont des œuvres de justice, je crois. C'est de ça dont il est question. Dans Éphésiens 4:24, il dit, « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc, la vérité produit une sainteté dans nos vies et une justice, des œuvres justes. C'est un thème extrêmement fort dans le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament. C'est un thème très, très fort dans les 4 évangiles avec Jésus. L'Évangile fait que nous faisons des œuvres justes, des œuvres bonnes, parce qu'on a ce discernement-là nouveau et on est appelé à vivre et à marcher dans la justice. Ensuite de ça, il parle de l'Évangile de paix. Et je vous lis juste une citation de Tony Merida que j'aime énormément. « Au cœur de ce passage qui parle de guerre, il y a un message de paix. Nous ne prenons pas des vies, nous offrons la vie. Comme chrétiens, nous sommes disposés à livrer notre vie parce que Christ a offert sa vie pour nous. Et nous savons qu'il nous ressuscitera au dernier jour. C'est vraiment intéressant. Paul parle des... Il n'est même pas mentionné chaussures en grec. C'est comme ce qui revêt nos pieds de zèle, c'est l'évangile de paix. Ce qui fait que je suis toujours alerte puis je suis prêt à partir dans ma journée, c'est pas que je m'en vais réaliser ma carrière, c'est pas que je m'en vais régler des comptes avec le monde, c'est l'évangile de paix. C'est l'évangile de paix. J'ai été réconcilié avec Dieu par l'évangile, j'ai fait la paix avec Dieu, Dieu a fait la paix avec moi, j'ai fait la paix avec les hommes dans l'Église, et j'ai ce zèle nouveau-là qui me permet de m'engager dans des relations où ce que je veux apporter, c'est ce message de réconciliation avec Dieu et avec les hommes. C'est ça qui me donne un zèle, c'est ça qui me prépare, qui me dispose à passer à l'action au quotidien. Je veux aller apporter ce message de réconciliation-là. La foi, le bouclier de la foi, et vous savez, lorsqu'on pense à des boucliers, on pense, il y a comme deux images hein, dans les boucliers. Il y a un petit bouclier rond, puis tantôt je parlais des Grecs qui avaient un bouclier rond, pas assez lourd encore, mais pas énorme. Puis il y a le bouclier avec les Romains, puis Astérix. Hein, vous, non, Astérix Obélix, les Romains, c'est énorme. Le mot grec qu'il y a là pour bouclier, ça veut dire une porte. C'est ça que ça veut dire. Donc, on parle pas du petit bouclier, OK? On parle de Astérix et les Gaulois, sauf que la potion magique est dans notre camp, d'accord? Juste pour mettre ça clair, si vous avez une image de l'armée qui se fait défoncer, non, la potion magique est dans notre camp, c'est Christ qui l'a. Mais c'est ce genre de bouclier-là qui est une porte. En grec, c'est porte qui est là. C'est pour ça que je vous dis, c'est une position défensive. Je peux m'abriter derrière ce bouclier-là de la foi. Et Dieu sait qu'au quotidien, j'ai besoin d'avoir cette foi-là. Parce que lorsque ma foi en Dieu, lorsque ma foi dans la puissance de Dieu est ébranlée, le diable commence à jouer dans ma tête. Et ça commence à dérailler. Je veux prendre des ressources qui sont des ressources charnelles, qui sont pas des ressources de Dieu. Ensuite de ça, il nous donne l'évangile, juste là, le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Écoutez ces deux citations-là. J'ai été sauvé de la peine du péché. Je suis sauvé du pouvoir du péché. Et je serai sauvé un jour de la présence du péché. À cause du casque du salut, tu peux affirmer « Je suis vivant en Jésus-Christ, racheté, pardonné, réconcilié, ressuscité avec Christ et assis avec Christ. » Porte le casque du salut et ne permets pas au diable de jouer dans ta tête. Paul savait ce qu'il faisait en disant « C'est le casque du salut parce que j'ai besoin de remplir mes pensées du salut que j'ai reçu en Jésus-Christ quand je veux attaquer ma journée. » Afin de ne pas commencer à dérailler puis commencer à me dire « Ah, c'est moi, il faut que je me défende. Ah, j'ai pas de valeur. Ah, je suis faite. Ah, ça marche pas, c'est lui mon adversaire. » J'ai besoin de me rappeler vraiment de l'Évangile et de le repasser dans mon cœur, dans mon esprit. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. À travers cette série-là, la parole de Dieu vous a été donnée. Cette semaine, je vais le développer un petit peu plus, mais le mot « parole » qui est ici, il y a deux mots grecs qui sont utilisés régulièrement. Il y a le mot « logos », que vous êtes peut-être un peu plus familier, mais il y a le mot « rhéma » aussi. Et « rhéma », c'est la parole qui est prononcée. Contrairement à la parole qui est donnée, qui est reçue, « rhéma », c'est la parole qui est prononcée. Et Paul est en train de nous dire que la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, devrait être disponible. Elle devrait être disponible dans ta bouche, dans ton cœur, dans ton esprit, parce que l'Esprit Saint veut s'en servir. Et donc, à travers cette série-là, la parole de Dieu vous a été donnée. Mais ça prend du temps pour passer quelques minutes, quelques heures, à aller dedans. Paul prend le temps de nous donner un truc mnémotechnique pour nous rappeler des ressources qu'on a dans l'Évangile, afin que cette parole-là, ce rhéma-là, soit là dans ton esprit disponible pour que l'Esprit puisse se servir de cette épée-là dans ta vie, dans les combats que tu as livrés. Et enfin, Paul termine avec la prière. Puis on pourrait dire que ça ne fait pas partie des armes, mais il nous parle de s'appuyer sur Dieu, de trouver notre force en Dieu. Et donc, qu'est-ce que Paul va dire à la fin? Il va dire, faites-en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez, 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 priez encore. Parce que lorsque je vais dans la prière, je me rappelle que ce n'est pas moi qui détermine l'issue du combat. C'est Dieu qui détermine l'issue du combat. Quand je suis inquiet pour un frère, une sœur, pour mes enfants, pour des gens autour de moi, et que je vais dans la prière, je me rappelle de ça. Écoutez, cette belle citation, ces deux belles citations de John Piper. Dans son livre sur les nations, sur l'évangélisation vers les nations. Dieu nous a donné la prière comme équipement de combat, pour nous permettre d'appeler l'état-major, comme en temps de guerre, afin d'exprimer tous nos besoins, tandis que le royaume de Christ progresse dans le monde. La prière nous donne l'importance d'une véritable ligne de front engagée au combat et donne à Dieu la gloire d'un pourvoyeur aux ressources illimitées. Piper dit aussi, la vie est un combat, la vie spirituelle est un combat extraordinaire. Tant que nous n'aurons pas compris la réalité de cet enjeu, nous ne prierons pas comme nous devrions le faire. Nous ne saurons même pas ce que c'est que la prière. On est engagé dans ce combat-là et la prière est une de nos ressources extraordinaires. Et ce matin, Paul nous donne un truc mnémotechnique. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures que donne l'évangile de paix, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi derrière lequel je peux m'abriter, le casque du salut pour me rappeler de l'évangile puis que ce soit ça qui remplisse mon esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui doit être disponible dans mes pensées, sur ma bouche, afin que je puisse annoncer l'évangile, que l'esprit puisse me rappeler sa parole constamment. Puis la prière. Et Paul, qui est en prison, nous demande de prier pour lui à ce moment-là, afin qu'il y ait du courage pour annoncer l'évangile. L'apôtre Paul, qui avait survécu aux pires attaques, dit « Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi encore. » Priez pour moi. Et donc, comme Église, on va être là ensemble dans la prière, les uns pour les autres, constamment, à chaque instant. Quand vous entendez des drames, comme à Londres, priez pour les saints, pour les chrétiens qui sont là-bas, que Dieu appelle à venir faire la différence. Quand vous entendez qu'il y a des choses difficiles dans le monde, priez pour les chrétiens qui sont là, que Dieu les fortifie. Quand vous pensez à quelqu'un dans l'Église, priez pour l'Église. Priez sans cesse pour demander à Dieu d'intervenir. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. La lettre aux Éphésiens, c'est la lettre de la grâce. À travers cette lettre-là, Paul nous a rappelé l'Évangile. Et ma prière, puis j'espère qu'à travers la lettre aux Éphésiens, la centralité, notre besoin d'être réformé dans notre esprit à tous les jours par l'Évangile, c'est ça qu'on a besoin. Hein? L'Évangile n'est pas simplement là pour nous sauver, elle est là pour réformer nos pensées au quotidien. Et on a besoin d'aller là. Et on a vu à travers cette lettre-là un peu de la richesse de l'Évangile, de l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous. On a vu un peu de l'importance d'être capable au quotidien de nous reposer dans l'œuvre que Christ a faite pour nous, pour affirmer notre identité, pour comprendre notre rôle dans le monde, pour comprendre nos relations dans l'Église et ce que c'est l'Église, pour comprendre notre rapport avec les gens autour de nous et être capable vraiment d'être des serviteurs. Mais savoir aussi que toutes les difficultés auxquelles je fais face dans la vie, ce n'est pas des combats contre les hommes que j'ai livrés, mais c'est une guerre spirituelle et Christ l'a déjà gagné pour moi. Mon rôle à moi, ton rôle à toi, si tu es en Jésus-Christ, c'est à tenir ferme, à garder la position avec les ressources qu'on a dans l'Évangile. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette lettre. Je te bénis, Seigneur, pour la lettre aux Éphésiens. Père, tout est fait, tout est accompli. T'as gagné la victoire pour nous et tu nous enseignes à nous reposer dans l'Évangile. Seigneur, fais-nous grandir. Aide-nous à saisir la grandeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Afin, Seigneur, que ce combat qui est à livrer à tous les jours, on ne le fasse pas par nos propres forces, en nous appuyant sur nous-mêmes, en nous fortifiant en toi, Seigneur, en ce que tu as accompli. Viens, Seigneur, et que l'Évangile prenne vraiment de l'expansion en nous, dans notre pensée, dans nos relations, dans notre Église, Seigneur. afin que nous soyons les uns pour les autres, ces membres d'un corps qui s'édifie mutuellement dans l'amour, et que le monde, Seigneur, autour de nous reçoive le message de l'Évangile de paix. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen.